Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin. On parle ensemble de recherche en santé mentale, vous allez voir, c'est très intéressant. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, les masochistes. Notre collaboratrice, Eve Cardinal, est aussi des nôtres. Elle nous parle pour sa part de amour et santé mentale. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Ellie Rose et la chanson s'intitule « Carousel ». Bienvenue à Folie douce.
Sintonisez actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991.
J'accueille maintenant mes invités qui sont Marjolaine Rivet-Bourgard. Bonjour Marjolaine.
Salut, ça va?
Ben oui, ça va. Bienvenue à Folie douce. Et aussi Justine Fortin. Bonjour Justine.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Bienvenue à notre émission. Vous êtes toutes les deux dans un domaine de la psychologie, on pourrait dire, au niveau universitaire. J'aimerais ça que vous nous présentiez ce que vous faites. En fait, quel est votre rôle chacune à votre tour?
Oui, excellent. Donc, en fait, premièrement, merci de nous accueillir avec vous. C'est super apprécié. Et puis, je suis présentement étudiante au doctorat en santé mentale à l'Université McGill. Et puis, je travaille dans le laboratoire de recherche sur les psychotraumatismes du professeur Brunet. Et puis, personnellement, moi, je travaille sur tout ce qui est réaction traumatique aux événements de masse. Donc, on parle d'inondation et de la COVID en particulier.
Et dans vos deux cas, vous travaillez, je crois, au même laboratoire qui est affilié à l'hôpital Douglas, je pense, hein, qui est bien connu là, dans le sud-ouest de Montréal.
Oui, exactement.
C'est ça. Et dans ton cas, Justine, quel est ton rôle?
Oui, moi, je suis étudiante aussi au doctorat en psychologie, bien plus neuropsy nouvellement. Là, ouais. Puis je suis supervisée aussi par le professeur Brunet, donc on est dans le même laboratoire. Puis moi, je me spécialise plus aux réactions psychologique, traumatique face à une annonce de diagnostic de cancer du sein.
Okay.
Donc, moi, c'est un peu plus mon dada, mais tout ce qui est détresse psychologique, c'est là-dessus que je travaille. Donc, je suis autant en recherche qu'en clinique.
Et avant qu'on parle des sujets de recherche puis des sujets qui vous intéressent puis ces choses-là, qu'est-ce qui a fait au départ, vous avez choisi le domaine psychologique? C'est pas fait pour tout le monde, j'imagine. Est-ce que vous avez comme... y avez réfléchi longtemps ou comment ça s'est passé? L'une ou l'autre?
De mon côté, ça a été très, très instinctif. Donc, depuis très, très jeune, donc j'essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, même si évidemment, c'est pas toujours ou très rarement possible. Je trouve ça vraiment hyper fascinant. Puis même, pour être tout à fait franche, au début, moi, je croyais m'orienter vers la clinique. Je faisais mon baccalauréat en psychologie. J'étais certaine de devenir clinicienne. Et puis, au fur et à mesure, en apprenant plus dans mes cours sur le stress et les différentes réactions qu'on peut avoir à des événements stressants ou traumatiques, je suis vraiment tombée en amour avec la recherche.
Okay.
Puis, je veux maintenant plus rien savoir de ce qui est clinique. Je suis vraiment en recherche.
Et c'est pas théorique, la recherche, dans le sens qu'on a toujours l'impression que les gens sont en train de se morfondre dans une salle avec, je sais pas, d'autres chercheurs, mais c'est pas ça, là, c'est dynamique, là, finalement.
Exact. Ouais. Exact. Surtout dans notre laboratoire, c'est un laboratoire assez clinique, là. On gère, on aide justement des gens qui ont eu un trauma ou qui ont vécu un événement super stressant. Donc, même si on fait juste de la recherche, on est quand même très collé sur la population, puis on n'est pas dans notre tour d'ivoire.
Ouais,
on voit des gens aussi.
Et dans ton cas, c'était un choix facile, un peu comme Marjolaine. Dans ton cas, Justine,
c'était facile, mais moi, ça vient toujours de l'inverse. Donc, j'ai été voir des psychologues quand j'étais jeune. Et j'ai pas tant aimé mon expérience, donc souvent, qu'est-ce qui m'inspire à aller dans un domaine, c'est je veux faire mieux ou je veux être ce que j'aurais aimé avoir.
Ouais.
Donc c'est vraiment parti de ça, puis moi aussi, comme Marjo, là, tout ce qui est être humain, comprendre qu'est-ce qui se passe, réfléchir aussi avec les autres, moi, ça m'a vraiment attiré. Puis la neuropsie plus particulièrement, parce que ma sœur, elle a eu un diagnostic de TDAH, donc ça m'a aussi ouvert les portes aussi sur cet aspect-là. Donc,
et quand on parle de neuropsychologie, c'est quoi exactement? C'est-à-dire qu'on va plus en profondeur? Comment on pourrait définir ce que c'est?
Mais dans le fond, les neuropsychologues sont aussi des psychologues, donc ils font partie de l'OPQ comme tout le monde, mais ils ont une attestation, dans le fond, pour pouvoir diagnostiquer des maladies qui proviennent du cerveau. Comme je l'ai dit, dans le fond, à l'enfance, ça va être ceux qui vont faire des tests pour regarder les processus cognitifs, que ce soit la mémoire, dans le fond, le langage. Donc, on peut diagnostiquer le TDA, le TDAH, okay. L'autisme, puis, dans le fond, c'est sur tous les âges. Donc, après un traumatisme crânien aussi, c'est eux qui vont faire des tests, puis qu'on peut diagnostiquer après, par la suite. Donc,
okay.
C'est plus une spécialisation de la psycho.
OK. Je me demande, peut-être une des deux, peut-être Marjolaine, comment les intérêts, justement, sont pertinents pour la population? Parce qu'on parle souvent, on a toujours l'impression que c'est un peu, comme on parlait tantôt, dans une tour d'ivoire, il y a des chercheurs qui cherchent, mais c'est pas tout à fait comme ça. Là. Comment ça peut s'appliquer assez facilement à la population, là?
Oui, ben je pense qu'une façon relativement facile de commencer, c'est qu'il y a toujours une population spécifique qui est étudiée.
Mmh. Mmh.
Et en partant, cette population-là est une population qui bénéficierait grandement des résultats qu'on peut avoir. Donc, par exemple, j'ai personnellement initié un projet de recherche sur les réactions psychologiques qu'on peut avoir à la COVID qui s'adressait à la population générale. Donc, juste en l'ayant fait pour ou avec la population générale, juste là, en partant, on sait que c'est des résultats qui pourraient être pertinents pour eux. Donc, que ce soit pour normaliser les différentes réactions qu'on peut avoir, que ce soit pour déstigmatiser la santé mentale pendant la pandémie, toutes sortes de choses comme ça. Par la suite, on peut aussi parler de tout ce qui est professionnels qui vont chercher à aider aussi les populations.
Ça les aide aussi, là, c'est ça, les gens qui interviennent, là, des thérapeutes ou des gens qui sont... Ouais.
Mm-hmm. Exactement. Donc, ces personnes-là aussi peuvent justement... En ayant une meilleure compréhension ou en ayant un meilleur portrait des comportements qu'on va avoir identifiés, vont être capables aussi à leur tour d'intégrer tout ça aux différents traitements ou à ce qu'ils apportent à leurs patients ou aux clients au niveau des interventions.
Puis avez-vous des peut-être Justine ou Marjolaine, avez-vous des, mettons, des comment on pourrait dire ça, des objectifs de dire il faut que la recherche se finisse? Est-ce que c'est des objectifs un peu comme marketing ou d'entreprise, ou si vraiment on peut pas vraiment comme avoir des structures qui vont dire on doit terminer la recherche telle date? Parce que comment ça fonctionne dans les faits, ou si vous avez quand même une latitude au niveau du temps, au niveau de, parce que des fois ça prend du temps, je trouvais des C'est pas quelque chose qui se décide, c'est pas une vente qu'on fait, là. C'est non, pas, c'est donc, comment ça se passe?
Mais c'est sûr que là, on fait du... On brainstorm en groupe, là. Par exemple, dans notre laboratoire, qu'on a une idée, on va parler avec notre directeur de recherche, par exemple, Alain Brunet.
Oui.
Puis on parle de notre idée, on regarde est-ce que c'est faisable. Donc, est-ce qu'on a une population qui est accessible à un nombre assez élevé qu'on va être capable de voir des résultats puis les vulgariser ou aller en parler justement à la population cible? Puis c'est sûr que si on a une demande de subvention, souvent les chercheurs, on fonctionne comme ça. Donc, pour financer notre projet, ça coûte de l'argent, autant pour rémunérer les participants qui acceptent de participer à nos projets, autant pour le matériel qu'on a besoin, qu'on fait un traitement. Des fois, on a besoin de médication, des choses comme ça. Donc, ça coûte vraiment cher. Puis c'est cette subvention-là qui vient ajouter un temps pour réaliser l'étude. Donc, des fois, c'est sur 3 ans, il faut qu'on rentre notre étude sur 3 ans.
Parce que même vous, comme chercheur, vous travaillez, là, les gens
exact.
Qui... C'est ça, que vous soyez chargé de cours ou étudiant à ce niveau-là, vous êtes rémunéré.
Exact.
Donc, ça prend ça. C'est intéressant. Non, c'est le budget, l'argent définit pas mal.
C'est ça. C'est un contrat qu'on fait avec les organismes subventionnaires. Ouais. Puis on leur dit, OK, si vous nous donnez cet argent-là, on est capable, en le temps de 3 ans, 2 ans, ouais. 1 an même, d'avoir des résultats qui vont pouvoir aider. Puis c'est un peu ça. Là, c'est une compétition ouais. à ce niveau-là, là, de voir qui va avoir l'argent, quel projet est le plus... prometteur là, pour aider la société. Là. Donc, c'est aussi un gros enjeu. Là.
C'est intéressant, mais il faut quand même jouer avec ça. Mais d'une certaine façon, vous avez quand même une certaine latitude dans la mesure que c'est rare qu'on va dire ben faut que ça arrive dans 2 mois. Là. C'est pas faisable en 2 mois. Faut que ça, des fois, ça prend plusieurs années. Il faut avoir eu le temps de rencontrer des gens.
Exact.
C'est un genre de sondage. Là. Je ne dirais pas que c'est un sondage, mais ça nous prend une masse de gens qui vont participer. Donc, automatiquement, ça effectivement...
Oui, puis justement, comme Justine mentionnait, ça dépend vraiment des organismes subventionnaires, mais eux aussi vont présenter une certaine flexibilité. Donc, si on dit « Hey, je m'excuse, mais bon, recrutement, c'est toujours quelque chose qui est un peu plus difficile, typiquement. Donc, on va avoir besoin de 2 mois de plus. » Bien, souvent, ils vont le donner.
Ouais.
Donc, faut juste demander à ce niveau-là.
Ouais. Je pense que vous avez eu l'occasion de faire un podcast, je pense, qui a permis de peut-être d'expliquer certaines démarches. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que c'est toujours disponible si les gens veulent l'écouter?
Oui, donc dans le fond, je pourrais laisser Marjo parce que ça part justement de son projet à elle, justement sur la COVID, puis les réactions psychologiques. Donc, je la laisserai lancer un peu vu que ça vient d'elle.
Oui.
Super. Donc, en fait, c'est ça, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, donc on a fait un projet de recherche dans notre laboratoire pour essayer de démystifier les différentes réactions qu'on peut avoir à la COVID. Puis si notre grosse question, en fait, était est-ce que la COVID est traumatique, oui ou non? Ce qui est quand même une question qui est pertinente puis qui
on s'est beaucoup posé ça, là, parce qu'on a toujours l'impression qu'il va y avoir des contre-coups là, suite à ça. Hein?
Oui, puis dépendamment de la définition qu'on donne à un événement traumatique, mais c'est aussi ouvrir une canne de...
Boîte de Pandore,
oui,
hein, on appelle.
Ça.
Hein, c'est exactement. Ça. On peut découvrir des choses qu'on ne veut pas, là, nécessairement.
Exactement, donc ça a vraiment ouvert des enjeux que, OK, maintenant on a tellement de données entre nos mains, puis on n'a pas vraiment de canaux pour diffuser ça à la population, où les canaux typiques qu'on connaît auraient été nous-mêmes organiser un café scientifique, chose qui n'était pas nécessairement possible, évidemment, pendant la pandémie.
Ouais.
Puis suite à un appel de subvention, justement, des Fonds de recherche Québec, il y avait une opportunité de... Mon Dieu.
De diffuser, en fait, c'est ça, de pouvoir diffuser. Puis là, vous avez peut-être trouvé que c'est un canal qui est assez... populaire de ce temps-là. Tout le monde en parle, là, des podcasts, c'est ça?
C'est arrivé au bon moment.
Ouais,
on avait des résultats de recherche. Ils voulaient sensibiliser les jeunes. Puis nous, on avait des résultats pour les jeunes.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'on, quand on a vu ce concours-là, on s'est dit, bon, mais ça va être le canal qu'on
avec
va utiliser.
Avec ce canal-là, qui est plutôt facile à faire, dans le
exact.
Sens que ça prend pas une tonne de choses techniques. C'est assez facile à s'organiser pour...
Exact.
Ça nous prend un micro ou deux, puis finalement, quelque chose pour enregistrer, puis on peut diffuser assez facilement, c'est ça?
Oui, exactement.
C'est une bonne stratégie, finalement, pour... parce que c'est ça, la recherche est peu connue, en général, tu sais, à part sur le milieu. Fait qu'il faut qu'on trouve une façon de... Il y a des bienfaits, ça, là, de juste le savoir qu'il y en a de la recherche. Parce que je me demande jusqu'à quel point les gens se disent, ben OK, c'est du monde, tu sais, qu'on sait pas trop ce qui se passe, parce que, justement, il n'y a pas de diffusion. Fait que d'en parler aujourd'hui aussi, ça démystifie la chose aussi.
Mm-hmm. Et puis, honnêtement, ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui se passent dans le monde, on s'entend.
Ouais.
Donc, s'il y a une question que vous vous posez en ce moment, dites-vous qu'il y a probablement quelqu'un d'autre dans le domaine de la recherche qui s'est allé poser un bonjour. Et il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose de publié là-dessus.
C'est un peu comme les inventions, je me dis. Okay. Parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais il me semble que je suis tanné, mettons, de, je sais pas, de me frapper sur le coin de la porte. Ben là, il va essayer de travailler quelque chose qui va t'empêcher de te frapper sur le coin de la porte. Fait que c'est un peu ça, dans le fond. C'est, il arrive des problématiques, on se dit, ben il faudrait peut-être trouver des solutions. Puis là, les recherches partent comme ça. Là. Puis il y en a beaucoup dans le monde, je pense, c'est ça. Hein?
Oui, énormément.
Fait, est-ce que vous collaborez des fois avec d'autres universités ou d'autres, ou vous inspirez, ou peut-être vous inspirez les autres, là, est-ce que ça arrive?
Oui, c'est sûr, dans le monde de la recherche, on est quand même assez soudés, là, la communauté scientifique, on est très, on connaît des gens de d'autres pays, de, tu sais, les études, on peut faire des échanges aussi dans d'autres pays, donc un an dans une autre université, ça crée des contacts ouais. aussi, puis après, quand, oh mon Dieu, je me rappelle que ce chercheur-là, aux États-Unis, il travaille sur le trauma, très ouais, spécifique, ouais. puis je veux écrire, tu sais, je veux faire une étude là-dessus, ben je peux lui écrire par la suite, fait que je dirais que côté communauté scientifique, là, c'est assez, c'est, on est assez soudés.
Ouais. Ce qui m'a toujours impressionné dans la recherche, c'est que j'ai l'impression qu'il y a personne qui garde ses affaires pour soi,
non, c'est ça.
Alors que dans la société, c'est ça, tu trouves quelque chose, tu fais une invention tant que c'est pas breveté, mais on a l'impression qu'en recherche, c'est comme tout le monde s'entraide, puis c'est pour ça que ça avance aussi. Hein.
Mm-hmm. Je vous dirais qu'il y a quand même quelques cercles exclusif. Ouais. Il faut quand même ouais. faire partie d'un cercle en toute honnêteté okay. pour avoir accès à ces choses-là. Il y a une belle communauté de partage, mm-hmm. Mais il y a aussi... la recherche, c'est très... il faut publier ou périr.
Oui, c'est ça.
Puis les idées, les données rentrent en ligne de compte à ce niveau-là.
Et dès qu'on publie, ben c'est ça, ça vient mettre l'étampe que ben ça vient de nous. Fait qu'à quelque part, c'est mieux de le dire puis d'être présent. Il reste très peu de temps, ça passe extrêmement vite, oui. mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut chercher selon le laboratoire peut-être dont vous nous parliez qui est affilié à l'hôpital Douglas pour les gens qui veulent savoir plus sur ce qui se fait, même sur cette recherche, puis le podcast, qu'est-ce qu'on pourrait chercher finalement pour trouver tout ça?
Oui, donc en fait, au niveau du podcast, donc on est présent sur les réseaux sociaux sous le nom de Sort de ma tête, donc que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube.
Donc si on cherche Sort de ma tête, on oui. va trouver sur le podcast en question, ouais.
Exact. Oui, exactement. Et puis pour ce qui est du laboratoire, donc en tapant justement le laboratoire de recherche sur les psychotraumatismes, avec le nom Alain Brunet et Douglas, vous allez définitivement...
C'est ce qu'on trouve. Ben, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Marjolaine Rivet-Bourgard, et merci beaucoup, Justine Fortin, d'avoir été des nôtres.
Avec plaisir.
Puis au plaisir de se reparler. C'est vraiment fascinant à suivre là, vos recherches. Alors, bonne continuation.
Merci.
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 À la prochaine.
À la prochaine.
jamais mettre de pyjama. Puis la routine nous aura peur.
Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, les masochistes.
Oui, parce que ça existe vraiment.
Ouais, je me demande bien quelle langue tu vas utiliser, mais je suis curieux d'en savoir plus.
Ça s'appelle le masochisme.
Ouais.
C'est bel et bien un trouble de la personnalité. C'est comme plusieurs autres troubles de la personnalité. Souvent, c'est autour de 2% de la population. Ça peut aller jusqu'à 2,5, 2%, mettons. Alors, si je regarde la définition dans Wikipédia, qui est devenue ma source, auparavant, j'avais le Larousse.
Ainsi que bien des gens, je pense, c'est assez populaire. Wikipédia, oui. un genre d'encyclopédie qui est toujours en développement, en fait.
Exactement, hein? Oui. On sait que ça se renouvelle constamment, je pense.
Les gens viennent toujours apporter un petit peu des informations supplémentaires.
Ouais. Oui. Alors, ce qu'on dit, c'est que le masochisme est la recherche d'un plaisir dans la douleur. À l'origine, cette recherche est liée à des pratiques à caractère sexuel. Par extension, les conduites masochistes sont le fait de personnes qui recherchent la souffrance et l'humiliation et qui s'y complaisent.
Oui, ouais, ça existe. Bien, ouais.
Et oui. Et si on, par exemple, si on regarde dans le passé, comment on a regardé ce problème-là du côté de la psychiatrie? Ben, si je regarde d'après un article qui s'appelle « Trouble de la personnalité masochiste » ou « Autodestructeur », comme on l'appelle aujourd'hui, d'après un article de Mme Chantal Maille, qui est psychologue, c'est sur le site chmpsy.com. Alors, ce qu'on dit, c'est que cette Mme Maille nous dit que le trouble de la personnalité masochiste a, en 1987, été proposé comme un nouveau trouble de la personnalité, en tant que catégorie à inclure dans le fameux manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qu'on appelle le DSM-3R. De longues délibérations du groupe de travail ont amené à changer le nom du trouble. On a ensuite plutôt parlé de trouble autodestructeur de la personnalité. L'objectif était alors d'éviter toute association avec les concepts psychanalytiques du masochisme féminin. En 1994, des pressions sociales et politiques ont amené à complètement l'éliminer du classement. Cette mesure n'a pas fait disparaître les nombreux cas de personnes qui souffrent de ce problème. Par le passé, ce qu'on peut deviner, c'est que certains hommes qui faisaient violence à leur compagne ou à leur femme pouvaient, après ça, prétendre en cours que ma femme aimait ça.
C'était des pratiques masochistes, effectivement.
Oui, ou que ma femme aimait ça.
Exactement.
Donc, on a rayé ça de la carte.
Surtout, je trouve que ça a toujours été un peu négatif, tu sais, d'entendre parler de masochisme. On dirait que tout de suite, tu fais un pas derrière. Là, tu dis, OK, une minute, là, tu sais, ça...
Mais comme je te disais tantôt, c'est quand même un trouble réel qu'on appelle maintenant le trouble autodestructeur. Mmh, ouais. Le concept de masochisme trouve son origine dans les descriptions faites au 19e siècle par Krafft Ebing. Cet auteur a en effet décrit le comportement de certaines personnes qui recherchaient le plaisir sexuel en se soumettant à la douleur physique causée par un partenaire dominant. Freud et d'autres psychanalystes ont par la suite décrit un modèle de comportement soumis non sexuel, qu'on appelait le masochisme mental. Les individus présentant ce style de personnalité placent les besoins des autres avant les leurs. Autrement dit, ils attachent moins d'importance à leurs besoins qu'à ceux des autres. Donner aux autres est ce qui donne un sens à leur vie. Ils en arrivent même à renoncer à des choses personnelles pour faire quelque chose pour quelqu'un. Être satisfaite n'est pas ce que cherchent ces personnes. En effet, diriger leurs efforts pour améliorer la vie des autres et les satisfaire. Remarque que si je mets mon petite opinion personnelle, c'est pas une mauvaise chose d'être généreux et de vouloir aider les autres.
Ouais, sauf que peut-être c'est à l'extrême dans ce cas-là, faut voir. Hein.
C'est ça un extrême. On s'oublie complètement. On finit par se détruire.
J'imagine. Hein.
Dans un autre article qui s'appelle « Personnalité masochiste, lorsque le problème, c'est moi », j'ai pris cet article sur le site nospensées.com. www.folidouce.fr, un site français qui n'est pas attribué à un individu ou un autre. C'est un effort d'équipe qu'on voit souvent sur Internet.
Ouais, souvent.
Alors, on nous dit, une personne masochiste pense qu'elle est responsable de tous les problèmes, pas seulement de ceux qui lui arrivent, mais également de tous les problèmes qui n'ont strictement rien à voir avec elle. Vous vous êtes sûrement déjà retrouvé dans une situation où une personne laisse penser qu'un autre est responsable. Toutefois, une personne masochiste se sentirait tout de suite visée, même si elle n'est pas la coupable directe. Étant donné que la personne masochiste se sentira toujours coupable de tout, elle cherchera sans cesse à reconstruire des situations desquelles elle sortira toujours perdante ou blessée. Mmh. Elle cherchera à se faire du mal, car elle croit qu'elle le mérite, même si ce n'est pas le cas. Ouais. Imagine-toi quelle sorte d'existence tu dois avoir dans un cas comme ça.
C'est plutôt assez brûlant émotivement, là, c'est ça, comme on dit.
Vous vous demandez peut-être si vous souffrez d'une personnalité masochiste ou si quelqu'un que vous connaissez répond à cette description. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas facile de les identifier, encore moins s'il s'agit de nous-mêmes. Les personnes masochistes portent cette culpabilité à l'intérieur d'elles-mêmes et bien souvent, des personnes les utilisent comme bouc émissaire. Il y a toujours des profiteurs, tu remarques, Yvan, dans des cas de, comme ça, les masochistes.
Ouais, envers les proies faciles. Là,
les dépendants.
Ils les reconnaissent, hein, ils vont les cibler. Là, c'est
oui,
ça.
Ou les dépendants affectifs sont un peu comme ça. Puis on dirait... Oui, c'est ça. Il y a toujours un abuseur dans le paysage qui va tourner autour. Puis on dirait des fois que la pauvre personne qui souffre de problèmes va même chercher ces gens-là.
Oui, c'est ça.
On dirait... c'est comme si ça les justifiait dans leur façon de voir les choses.
Ouais. Mais on va y revenir un peu plus tard dans l'espresso allongé. Les masochistes, c'est quand même un sujet qui on va s'y intéresser, c'est sûr. Donc, à Folie douce, demeurez des nôtres.
Chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les.
C'est avec bonheur que je reçois à nouveau notre collaboratrice Ève Cardinal. Bonjour Ève.
Bonjour Yvan.
Alors aujourd'hui, tu nous parles de santé mentale et amour. L'amour qui est le thème universel pour la majorité des chansons. Je pense que si on fait le décompte de toutes les chansons dans le monde, de toute l'histoire de la musique, je pense que l'amour, ça a toujours été le sujet de prédilection. Mais comment tu peux nous amener ça en rapport avec la santé mentale? Il y a certainement une grosse idée à développer là-dessus. Là.
L'amour est gros, l'amour est grand, l'amour rend aveugle. Je t'apprécie aujourd'hui qu'on parle plus des aspects positifs de l'amour.
Oui. Hein?
Puis ça, on y reviendra peut-être dans des chroniques futures. Là.
Oui.
Au niveau des fois, ça peut être toxique. Il y a des choses aussi, tu sais, la prévention, en fait, il y a des questionnements. Là, aujourd'hui, on parle un petit peu plus des côtés positif de l'amour.
OK.
OK. Donc,
ben, il y en a, c'est sûr, parce que l'amour...
Il y en a beaucoup.
C'est beau, l'amour, mais...
Il y en a beaucoup. On va parler un petit peu de certains aspects qui peuvent être plus problématiques, là,
ouais.
Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus pour montrer qu'est-ce qui se passe un petit peu comme phénomène, puis comment ça peut bouleverser aussi le cerveau, puis en fait... aussi un peu notre boule d'émotion, là, si
ouais.
on veut.
Puis en santé mentale, c'est pas rare qu'il y a des gens, justement, qui... Soit qu'ils recherchent l'amour, soit qu'ils
oui.
ont plus de difficultés des fois, sans faire de c'est pas toujours le cas, mais ça arrive là, que les gens vont, à cause justement de leurs problématiques, c'est plus mm-hmm. difficile à être en amour avec quelqu'un. Puis...
Oui, parce qu'on le verra tantôt, l'amour, ça peut générer aussi de l'anxiété, ça peut générer certaines dépendances, ça peut générer un désir aussi beaucoup d'être aimé, une peur d'être abandonné.
Ouais.
Mais généralement, l'amour pour la santé mentale, de façon globale, c'est parce que c'est un grand sujet là, que j'aborde aujourd'hui. Il est très vague. Là.
C'est grand comme c'est grand comme le monde.
Là, j'avoue. Normalement, là, quand c'est les hormones du cerveau, là, ça procure une sensation de bien-être, de bonheur, et ça aide à se sentir bien normalement, OK?
Oui.
Psychologiquement. Alors, tombant amoureux, normalement, là, au niveau positif, ça a beaucoup d'impact sur la santé mentale qui sont très, très bénéfiques. Là. Alors, on parle de se sentir rassuré, se sentir aimé, se sentir accompagné. Être fier de soi, hein, être fier d'aimer quelqu'un, d'être apprécié,
ouais,
d'une relation amoureuse. Puis en fait, c'est souvent une sorte d'antidépresseur, hein, dans plusieurs cas, si on veut. Puis oui, l'amour peut être poison aussi. Là, ça, comme j'ai dit, là, j'aborde un côté qui est positif aujourd'hui. Puis par contre... Il y a aussi l'aspect de la sexualité qui aiderait à réduire le stress. Puis comme j'ai dit aujourd'hui, je ne suis que positive par rapport à l'amour. Quand on s'en verra dans les futures chroniques, là, je vais être en grosse peine d'amour, je vais dire « c'est de la... » OK? Alors voilà.
Parce que c'est ça, il y a des gens qui ont peur, des fois, que quand c'est trop beau, ils ont peur que ça, par expérience ou par observation, ils ont peur que ça s'arrête. C'est ça. Il y a des gens qui deviennent anxieux, tu sais, à perdre cet amour-là aussi, là.
Mais bien sûr, parce que tu sais, il y a toujours le phénomène, on a peur que tout nous tombe sur la tête. Hein? Quand on est trop heureux, puis des fois on est un peu anxieux et tout, et ce qui se passe, c'est qu'on a peur que ça nous tombe sur la tête parce que c'est trop beau pour être vrai.
Mm-hmm.
Il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça là, au niveau amoureux. Il y a des phénomènes neurologiques aussi. Il y a des phénomènes hormonaux, hein, qui se passent dans le cerveau, qui font en sorte qu'on est sur un nuage et tout, et qui font en sorte que ça peut devenir aussi épeurant quand on retombe de ça.
Ouais.
Mais j'aimerais revenir avec toi, là, même moi j'ai de la misère à le comprendre, là, qu'est-ce qui se passe là, au niveau neurologique? Hein? Là, on ne parle pas nécessairement de psychologie ou de psychiatrie, mais puis là je ne suis aucunement neurologue, là, mais ce qui est intéressant, c'est au niveau des hormones qui sont sécrétées dans le cerveau. Il y a une baisse de la sérotonine, ok, normalement, qui est en fait... Le jugement, OK? Chez un homme, une femme, il y a une baisse de la sérotonine. Tu sais, quand on se dit « je perds la tête quand je tombe en amour »,
c'est
t'as une baisse de jugement.
Donc, ça...
Ben, l'amour en aveugle, c'est tellement vrai.
Ouais.
Nécessairement, tu peux dire « mon Dieu, cette personne-là, là, j'arrive dans la rue, ça m'aurait rien fait », puis tout à coup, bang, c'est des hormones.
Ouais.
Il y en a des phéromones, de l'oxyopine,
un peu des ondes, là, à un certain point, les ondes se rencontrent ou...
C'est sûr.
Une connexion, là.
Oui, bien, effectivement. Mais ça a un impact sur la santé mentale. Ça a un impact qui peut être, comme on l'a dit tantôt, positif ou négatif.
Ouais.
C'est très difficile aussi à démêler.
Puis
en même temps, il y a plein de sentiments qui sont mélangés avec ça parce que tu as la famille, tu as le passé, tu as toutes sortes de choses aussi qui interviennent là, dans ce sentiment amoureux-là parce qu'il peut en avoir plusieurs sentiments amoureux-là.
Oui, oui. C'est pas aussi... Il n'y a pas un modèle, puis il n'y a pas une façon de faire. Il y a toutes sortes de situations, des fois compliquées, qui sont compliquées, qui sont peut-être intéressantes, mais qui sont compliquées quand même. T'sais, c'est pas toujours si c'est facile et tout va bien. Là.
Ben, tu peux tomber en amour, t'sais, c'est-à-dire, t'sais, on a toujours le cliché, là, bon, excuse-moi, là, les films de filles, là, je vais en parler, mais t'sais, l'amour passion, le coup de foudre instantané et tout. Puis il y a d'autres sortes d'amour aussi. Hein. Y a l'amour qui peut être plus amical, romantique, attachement, mais c'est prouvé au niveau aussi de la réduction du stress, de l'anxiété, des dépressions, que plus on a un sentiment qui est proche de stabilité amoureuse avec son conjoint, sa conjointe, de même sexe, whatever, partout dans le monde,
mm-hmm,
plus on a ce sentiment-là, en fait, qui est antidépressif, qui aiderait, en fait, à calmer pas tous les problèmes de santé mentale ou tout ça, mais qui contribuerait, en fait, à sécréter quand même des hormones dans le corps qui calment, comme aller faire du sport et tout ça. Maintenant, c'est pas vrai pour tout le monde, là.
Et c'est pas vrai que tout le monde non plus peut rencontrer quelqu'un avec qui il peut avoir une relation intéressante et constructive aussi, là.
Non, effectivement.
Il y a beaucoup de gens célibataires aussi, hein, on en parle, mais surtout dans les
tout
villes, même à Montréal. Il y a
tout
beaucoup
à
de
fait,
monde qui sont seuls, donc c'est pas trop évident, là.
C'est un phénomène qui est répandu, c'est un phénomène qui est absolument, comme entre guillemets, normal. Mm. C'est surtout dans les grandes villes, les grands espaces et tout. Et souvent, justement, les gens qui ressentent ça en même temps souffrent aussi de certaines problématiques, hein, au niveau de la santé mentale. Le déni de soi, la peur d'être seul et tout. Et versus quand on est en couple aussi, on s'oublie.
Mm-hmm.
Hein, on s'oublie. Ça ne veut pas dire parce que ça fait on est en couple, on a des enfants et tout, que l'on ne s'oublie pas. Hein.
Non, absolument.
Il y a et beaucoup de facteurs de stress dans les couples, hein, qu'on est ensemble depuis plusieurs années, on veut, on est dans un schéma, on est dans un moule et on a peur de changer. Et ça amène à énormément d'anxiété aussi chez les gens. Puis c'est la peur aussi de laisser tout ça puis de se retrouver avec pas rien, parce qu'on n'est jamais devant rien devant ça, mais
ça devant... Ça peut être insécurisant pour certains.
Tout à fait, tout à fait. Puis ça, c'est très important là, au niveau de la santé mentale. Mais là, je ne rentrerai pas dans les relations conjugales, mais effectivement...
Ça, c'est un autre
puis
c'est
je ne suis vraiment sujet. Pas spécialiste là-dedans, si tu savais.
C'est un autre sujet.
voilà.
Mais comme on le dit avant, l'amour, c'est tellement un vaste sujet, mais c'est un sujet intéressant quand même, parce que, écoute, c'est la base, là, l'amour, c'est...
Ben l'amour, puis l'amour, je sais pas pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. L'amour, c'est pas juste l'amour de couple, dans le fond. C'est, ben oui, il y a l'amour romantique, l'attachement, il y a le désir, il y a l'implication, le sentiment amoureux à long terme, puis il y a le coup de foudre, tu sais. Mm-hmm. Et les gens ont souvent tendance à dire « Wow! » Tu sais, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Puis en fait, c'est et neurologique, et psychologique. C'est ça qui est intéressant de voir. Puis la descente peut être assez rough, entre guillemets. Là, quand...
C'est ça.
Ouais.
Peut être presque aussi intense dans l'autre sens.
Ben, quand tu montes le Kilimanjaro, là,
c'est ça.
C'est ça, oui. Voilà.
Ça peut descendre vite.
Oui. Est-ce que. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi les impacts du sentiment amoureux sur la santé mentale?
Ben, définitivement.
On l'a dit, là, ben...
Non, mais définitivement, je pense qu'il y a beaucoup de dépression aussi, puis il y a beaucoup de mal-être, tu sais, qui se vit. C'est sûr, avec quand ça ne fonctionne pas bien avec les relations amoureuses, c'est sûr que c'est déprimant parce que, à quelque part, les gens. Je dirais peut-être que c'est la pire chose dans la vie, jusqu'à un certain point, parce que perdre son emploi, bon, c'est pas évident, mais on se dit, ben, il y aura toujours des emplois, tout ça, mais trouver l'amour, trouver la bonne personne pour être avec, c'est une autre histoire, je pense.
Ben, je suis d'accord avec toi, c'est super précieux. Puis c'est quelque chose, peut-être que dans notre époque actuelle, on va peut-être retrouver que peut-être que c'est un petit peu plus important de ne pas perdre les gens qu'on aime qu'un emploi ou quelque chose qui est très lucratif. Puis c'est sans jugeant, c'est que des fois, on est allé un petit peu vite dans nos priorités et tout ça. Puis peu importe c'est quoi, je pense que ça va jauger un petit peu ces relations-là. Puis c'est aussi par rapport à notre relation, peut-être aussi, j'ai déjà dit ça dans d'autres chroniques avant, puis c'est pas péjoratif, mais la génération Kleenex, là, on est un peu, que ce soit de 50 à, mettons, 20 ans, on est un peu tout ça, ça marche pas, ciao, bye et tout. Je pense que ça, peut-être que ces derniers temps vont, en fait, contribuer à ne pas, à plus...
Faire attention
faire
à lui-même.
Faire une place là. À ça, oui, aux relations, puis aussi à nos amoureux, nos amoureuses, puis aussi, ils sont où dans la vie, c'est quelle place qu'on a et tout ça. Parce que à l'opposé, là, il y a des expériences d'attachement à un partenaire qui contribue au développement harmonieux, puis comme on l'a dit tantôt, mais ça peut faire très mal.
Est-ce que une des solutions ne serait pas de rendre les gens plus forts eux-mêmes, de moins dépendants, puis ça veut pas dire d'être complètement détaché là, d'une relation, mais d'être plus sûr de soi, de développer cette connaissance de soi pour justement être capable de dire « je suis d'abord moi », puis oui, il y a une relation, mais si jamais arrive une rupture, ben, c'est moins dur à vivre là, pour la santé mentale. C'est peut-être pas facile à faire, mais c'est peut-être.
Eh bien, là, tu me poses une. Moi, tu sais, je suis la vulgarisatrice qui va chercher, entre guillemets, dans ma petite course au trésor. Si j'avais la question, je répondrais.
C'est comme une interrogation que je me lance. Oui, des fois, je me dis, en même temps, c'est facile à dire. Là. C'est pas toujours explicable comme ça, l'amour. C'est toujours, des fois, un peu nuancé, mais. Une idée comme ça.
Mais oui, absolument. Puis en fait, il y a des théories. T'sais, il ne faut pas être trop dépendant affectif. Il faut en même temps penser à soi. En même temps, il faut... Tu sais, on est un peu mélangé aussi dans tous ces coachings-là de vie qu'on nous donne. Fait que moi, j'ai été voir ça. Mais en fait, oui, c'est un questionnement à se poser. Puis c'est de voir aussi comment on se positionne là-dedans.
Oui,
là.
Exactement.
Mais ce qui est important à savoir, par contre, c'est que tout comme, tu sais, le phénomène de la santé à tout prix, là, tu sais, on entend tout ça, là, tu sais, je veux bien manger, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Ben, il y a beaucoup de phénomènes aussi que les gens veulent contrôler leur relation amoureuse, hein. Et alors que c'est absolument incontrôlable, normalement. Mm-hmm. C'est quelque chose aussi qui est très émotif, je veux dire. On peut pas non plus contrôler toute sa vie, sa relation, step by step. Donc ça, je pense que c'est un apprentissage qui, qui j'ai lu ça dans les lectures, c'est important à faire. Et comme tu dis, on ne se contrôle que soi, mais on ne peut pas aussi toujours contrôler l'autre personne, oui. Même ses enfants, même, tu sais, c'est ça.
C'est exactement. Il reste voilà. Quelques secondes, oui. Ben, une trentaine de secondes. Eve, je pense qu'il y a des références, peut-être.
Alors, je te suggérerais, en fait, le medfamumontréal.ca.
Oui. Medfam, c'est quoi?
Medfam, en fait, c'est particulièrement aussi pour les adolescents, okay. Pour gérer les relations amoureuses et okay. Tout. Je pense que c'est important qu'on, ouais. qu'on en parle. Il y a toujours alpabem.qc.ca.
Oui.
OK, au niveau aussi des ressources, pas juste en santé mentale, mais tu sais, au niveau relationnel et tout.
Ouais.
Et le www.chusj.org, qui encore une fois traite aussi, tu sais, comment, c'est pas des conseils psychopop, en guillemets, mais c'est plus comment gérer aussi en temps actuel, là, comment ouais. On peut voir là, les relations de couple. Puis en fait, là, j'ai pas été voir tous les répertoires de sexologie. Désolée.
on va s'y mettre.
On s'en reparlera, on va dire, ouais. Là.
Merci beaucoup, Eve, donc, cette chronique Amour et santé mentale.
Salut!
Merci, bye.
Santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit à Folie Douce.
Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, les masochistes, Pierre.
Exactement.
Et on parle pas de toi puis moi. J'espère, en tout cas.
On parle jamais de notre vie
non,
privée.
On parle jamais de notre vie privée. On se garde une petite gêne.
Oui. Alors, remarque que c'est moins drôle pour ceux qui en souffrent, ouais. Cependant. Alors, je vais continuer ma lecture de cet article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Personnalité masochiste ». Du petit point, lorsque le problème, c'est moi. J'ai trouvé cet article sur le site nospensées.fr. Alors, on nous dit, quelles caractéristiques présentent les personnes dotées d'une personnalité masochiste? Il y en a 7. Premièrement, elles se rendent responsables de tout. Elles pensent sans cesse que c'est de leur faute et qu'elles méritent d'être punies. Deuxièmement, lorsqu'elles sont à deux doigts de réussir quelque chose, elles s'auto-sabotent pour que tout tourne de travers. Ouais. Troisièmement, au lieu de profiter des situations agréables et de se réjouir, elles font preuve de mépris. Quatrièmement, elles construisent leur malheur en cherchant à adopter le rôle de victime. Cinquièmement, elles se sacrifient pour se sentir utiles. Sixièmement, elles sont faussement humbles et possèdent des traits narcissiques. Et septième et dernier point, elles vivent dans la peur que tout finira tragiquement. Les personnes masochistes vivent constamment dans la peur, l'insécurité et sont très dépendantes des autres, dans le sens où elles ont besoin que quelqu'un soit témoin de leur sacrifice. C'est pas drôle.
C'est
hein?
pas quelque chose qui est privé. Faut qu'il y ait un ouais. témoin, comme tu dis. Faut qu'il y ait...
ouais. 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 En réalité, ces personnes croient qu'elles doivent vivre leur vie comme un martyr. Elles se sont mises dans la tête qu'elles doivent se soumettre aux autres et qu'en se sacrifiant, le bonheur frappera à leur porte dès le lendemain. Mais ils ne se pointent jamais le bout du nez. Le manque d'égoïsme fait de ces êtres des personnes qui manquent incroyablement de confiance en elles, cherchant ainsi la souffrance, la douleur et la culpabilité pour se sentir bien. Mmh. Au fond, elles veulent se sentir bien, c'est la seule façon qu'elles ont de s'y rendre.
Oui, certains pourraient dire que c'est tordu, puis c'est un peu un drôle de chemin pour y aller, mais c'est peut-être une problématique qu'elles n'ont pas trop de problème. Elles n'ont pas trop le choix, peut-être.
C'est ça, il n'y a pas le contrôle.
Ils doivent conjuguer ouais. avec ça.
Il n'y a pas le contrôle. Ouais. Si vous savez que vous avez une personnalité masochiste, le moment est venu de vous demander si vous êtes vraiment heureux en vivant ainsi. Il est vrai qu'aider les autres nous permet de nous sentir bien et nous offre un sentiment de satisfaction, mais pas de là à vous rendre coupable de tout et à vous autoriser à souffrir pour que les autres soient heureux, pendant que vous, vous n'êtes pas heureux. Un jour, vous vous sentirez prisonnier d'un puits si profond que vous n'arriverez plus à en sortir. Malgré tous vos efforts, vous resterez bloqué au fond. Personne ne pensera à vous et vous continuerez à vous faire du mal tout seul. Pendant que vous passez votre temps à masquer votre souffrance, les autres se serviront de cette faiblesse pour vous faire souffrir encore plus. Si vous ne faites pas d'efforts pour être heureux et vous sentir bien, personne ne le fera à votre place. Ouais. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Vous devez vous occuper de vous. Vous ne serez jamais heureux en jouant les martyrs. Pensez à vous, ne serait-ce qu'un instant. Il n'y a rien de mal à ça. De plus, vous ouvrirez enfin les yeux devant cette fausse réalité que vous vous êtes créée. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, loin de là. Si vous souffrez, si vous êtes soumis et si vous donnez tout, comment pouvez-vous vous sentir coupable? Libérez-vous de ce sentiment de culpabilité qui vous ronge au plus profond de vous-même. Vous êtes le seul responsable de cette souffrance parce que vous l'autorisez. Nous cherchons tous le bonheur, même vous. Il est certain que nous connaissons tous des situations qui nous font souffrir, mais ce n'est pas un credo qui doit nous accompagner jour après jour. Faites preuve d'égoïsme de temps en temps. Pensez à vous d'abord et soyez sûr de vous. Comme quoi, Yvan, l'égoïsme, c'est pas nécessairement mauvais.
Non, un bon égoïsme bien placé, là, avec parcimonie, là, faut pas quand même exagérer. Mais c'est vrai qu'effectivement.
Ça n'en prend une petite dose.
Faut des fois penser à soi, tu sais, mais c'est un grand mot, l'égoïsme. Là,
c'est vaste.
Dans le fond, c'est de penser à soi puis de pas s'oublier, c'était ça, là.
Finalement, on nous dit « Ne vous rendez plus coupable de tout, ne pensez plus que vous êtes une mauvaise personne parce que vous ne donnez pas tout aux autres. Vous méritez mieux. Vous devez penser à vous. Personne n'a le droit de profiter de votre personnalité pour vous faire du mal. Vous êtes sur Terre pour être heureux, non pas souffrir continuellement sans raison. »
Avais-tu mentionné, je me souviens pas, s'il y a beaucoup de gens qui sont touchés, peut-être dans la première partie, par le masochisme, parce que c'est quand même assez vaste, là, comme tu dis, il peut y avoir un côté plus connotation sexuelle, mais il y a aussi la connotation de
on ne donne pas de chiffres dans l'article, mais je disais tantôt que ces troubles de la personnalité qui sont fréquents, là, C'est à peu près 2 % de la population. Des fois, 2,5 %. Ça tourne autour de ça.
C'est pas considéré comme une maladie mentale, mais c'est un trouble de comportement.
Un trouble de la personnalité.
La personnalité, plutôt. C'est ça, effectivement. Parce que des fois, c'est un peu... c'est proche. Là, c'est quand même souffrant pour la personne, mais c'est pas comme tel... un diagnostic. Là,
et on sait que les troubles de personnalité, c'est toujours difficile à soigner parce qu'il n'y a pas de médicament contre ça, parce que c'est pas une maladie mentale. Tu as bien fait de le mentionner. Les troubles de personnalité, ça se traite par thérapie et ce n'est pas facile. Ça prend des années, je pense, en moyenne, pour pouvoir voir clair à travers notre propre personnalité et pouvoir travailler là-dessus.
Il faut lire là-dessus, s'informer. Il faut lire, s'informer, demander des conseils, effectivement, c'est ça. Oui. J'imagine, à la rigueur, parler à son médecin qui peut peut-être nous diriger vers des thérapeutes.
Exactement, mais on a besoin d'aide.
Oui, merci beaucoup, Pierre. Donc, ce sujet, les masochistes...
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
En terminant ce rendez-vous de Folie douce, on va y aller avec la nomenclature des chansons, Pierre, qu'on a entendues dans l'émission cette semaine. La première chanson, Carousel.
Oui, de Élie Rose.
On a pu entendre Maison.
Des Sœurs Boulay.
Dans la deuxième demi, Tragédie en Tuxedo.
De Cherry Cherry.
Un beau petit nom de groupe, ça, finalement. Ouais. C'est sympathique. Puis, je sais pas, ça donne goût de manger des cerises. Je sais pas pourquoi.
C'est un groupe
ça...
d'ici, en plus.
Ah oui,
un groupe québécois.
OK,
ouais.
C'est intéressant. Mais c'est à découvrir pour ceux qui le connaissent pas. Et à l'instant, Give It Right Back.
De Liana.
Ben voilà, merci beaucoup pour ton choix musical et la mise en onde.
Bienvenue, mon cher.
Ainsi que pour tes blocs espresso et allongé. Tu nous as parlé du masochisme et des masochistes. On a vu que c'était pas mal plus large que ce qu'on peut avoir comme préjugé, des fois. Donc, c'était plutôt informatif. Alors, merci beaucoup pour ça. Nos invités en début d'émission, Marjolaine Rivière-Bourgard et Justine Fortin, nous ont mieux expliqué la recherche en santé mentale. Puis, c'est pas quelque chose qui est comme si mythique que ça. Il y a beaucoup de concret dans la recherche. Alors, c'était fort intéressant de les recevoir à l'émission. Notre collaboratrice, Eve Cardinal, nous a pour sa part parlé d'amour et santé mentale. Alors, tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir!